Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Emmanuel Rivière. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, consultant en stratégie d'opinion et spécialiste des sondages. Alors, ce qui fait la une de l'actualité politique en ce dimanche, c'est l'annonce faite par le gouvernement. Il veut une nouvelle loi immigration. Sa porte-parole, Maud Bréjon, l'a annoncé sur BFM TV.
Il faudra une nouvelle loi immigration pour adapter un certain nombre de dispositions. Bruno Retailleau a, par exemple, mis sur la table une proposition qui doit permettre de faciliter la prolongation de détention des étrangers en situation irrégulière. Il propose que les profils les plus dangereux puissent être maintenus en détention, non pas au maximum 90 jours comme c'est le cas aujourd'hui, mais jusqu'à 210 jours. Pour le faire, on a besoin d'une loi. On présentera ces propositions législatives plutôt en début d'année 2025 et on ne s'interdit pas, au sein de ces propositions législatives, d'y mettre d'autres dispositions pour protéger les Français.
Le chef du Parti socialiste a aussitôt été amené à commenter alors qu'il était dans le studio de France Inter.
Bruno Retailleau refourgue une nouvelle loi immigration comme gage à l'extrême droite au début de l'année prochaine sur la question du délai de rétention. Savez-vous à quel moment les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, sont rendues possibles parce qu'on a les laissez-passer consulaires? 80%, ça se fait dans les premiers jours. Parce que la réalité, c'est que vous pouvez augmenter autant que vous voudrez le délai de rétention, vous n'obtiendrez pas davantage de laissez-passer consulaires quand les pays qui sont les pays qui devraient être les pays destinataires n'en veulent pas.
Emmanuel Rivière, voilà qui va relancer l'accusation de la gauche voulant que Michel Barnier est l'otage du RN dans la mesure où il y a quelques jours, Marine Le Pen avait demandé à Michel Barnier une nouvelle loi immigration d'ici début 2025, dans les 3-4 mois qui viennent.
Et la même Marine Le Pen avait dit au moment de le vote de la loi immigration de la fin de l'année 2023 que c'était une victoire idéologique pour le Rassemblement national. Et ce n'est pas totalement faux, c'est-à-dire que si on regarde, on entend beaucoup mobiliser, citer l'opinion des Français sur ces questions-là. Effectivement, quand on pose un certain nombre de questions, d'ailleurs, quand on testait il y a un an, pas tout à fait un an, la loi immigration, la plupart des dispositifs étaient approuvés. Cependant, l'attente des Français sur l'immigration, ça, c'est un peu quelque chose qui est un peu déformé comme vision. C'est l'attente d'une partie des Français. Quand on demandait aux Français quelles étaient leurs priorités au moment de leur vote, que ce soit aux européennes ou aux législatives, vous aviez les électeurs du Rassemblement national, des Républicains, qui disaient beaucoup que l'immigration faisait partie de leurs priorités. Les électeurs de gauche, beaucoup moins. Donc, de fait, ça répond aussi à votre question. Le fait de penser qu'il faut maintenant une loi immigration alors qu'il y en a une il y a moins d'un an, c'est effectivement répondre aux attentes principalement de l'électorat qui va de ceux de la droite à ceux du Rassemblement national.
Le RN, justement, qui est incontournable, finalement, dans la mesure où, pour faire voter ce nouveau texte, le gouvernement ne peut compter que sur une majorité relative de députés à l'Assemblée nationale. Il va devoir donc élargir ses soutiens.
Oui, ce sera un élément très important parce que, de fait, ça sera très vite la rhétorique de la gauche. Je veux dire que s'il y a un mouvement, une loi supplémentaire sur l'immigration, ce sera forger non plus seulement l'alliance entre la Macronie et les Républicains, mais une alliance objective qui serait à rebours. C'est ce que rappelle, non sans quelques raisons d'ailleurs, les leaders de gauche, de ce qu'a constitué le Front républicain. Et puis ensuite, tout dépend de ce qu'il y aura dans cette loi. Et c'est là où, probablement, le Rassemblement national sera en situation d'obtenir, hein, puisqu'il s'agit de durcir une loi qu'il a déjà votée, on peut imaginer que le Rassemblement national suivra. La question, c'est qu'est-ce qu'il en sera de cette branche de la Macronie, issue de la gauche, qui avait déjà manifesté son mécontentement il y a un an.
Ben oui, parce qu'on se souvient qu'après l'adoption de la loi, d'abord, 20 députés macronistes avaient voté contre, hein, 17 s'étaient abstenus, et le ministre de la Santé de l'époque, Aurélien Rousseau, avait exprimé son désaccord, et pour ce faire, il avait carrément démissionné du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement doit non seulement ratisser large, mais aussi compter sur ses propres soutiens. Ça promet de nouvelles passes d'armes. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il y a une petite prise de risque, hein, de la part du gouvernement, parce que, certes, il y avait cette quarantaine qui n'avait soit pas voté, soit s'était abstenu, puis il y en a quelques autres qu'il avait fallu convaincre en leur disant, un par un, mais tu peux la voter parce que de toute façon, le Conseil constitutionnel derrière fera un petit peu de fil. Donc là, et là, il s'agit de rétablir des choses que le Conseil constitutionnel, cette fois-ci, ne censurerait pas forcément parce qu'ils avaient considéré que c'était une sorte de cavalier législatif pour certaines d'entre elles. Donc voilà, ça va être plus compliqué de rassembler l'ensemble de la famille rétrécie et un peu chahutée par ce futur texte annoncé aujourd'hui.
Nouvelle loi donc sur l'immigration. Immigration et sécurité. Jean-François Copé, qui est le maire Les Républicains de Meaux, fait le lien et réclame des mesures. C'était sur LCI à midi.
Il faut arrêter de bavasser, de se demander si c'est bien, pas bien. En réalité, les gens l'attendent et ils l'attendent parce qu'ils veulent de l'ordre. Donc ça concerne les fameuses OQTF, hein, ceux qui sont tenus de quitter le territoire, mais il faut prévoir aussi des interdictions de revenir, hein, parce que sinon ça sert à rien. La deuxième chose, c'est que c'est un gros travail, parce qu'il faut obtenir les laissez-passer consulaires des pays dans lesquels d'origine. Hein, donc ça, c'est un travail diplomatique qu'il faut faire. Donc il y a plusieurs ministères qui sont en jeu. Mais si on va plus loin, il ne faut pas non plus se tromper. Le sujet numéro un des Français, c'est pas tant l'immigration que l'insécurité. Il se trouve que le lien, malheureusement, il est pas difficile à faire parce qu'on voit bien ce qu'il en est, mais ça ne suffit pas. Le sujet numéro un, de mon point de vue, c'est celui qui a trait au rétablissement de l'ordre dans la rue. Et pour ça, il y a une priorité, c'est la lutte contre la drogue.
Quant à la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, elle appuie les projets de Bruno Retailleau en matière de sécurité. Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur.
Bruno Retailleau fait, je pense, aujourd'hui un constat, quel constat partagé par une très large majorité de Français. Que dit Bruno Retailleau ? Bruno Retailleau dit, en matière de sécurité, on a encore du chemin à faire. Et on doit avancer sur le contrôle de l'immigration, et notamment de l'immigration clandestine.
On va y venir après, oui, tout à fait.
Mais une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'on a en France aujourd'hui un travail à mener pour se doter d'un meilleur arsenal juridique. Mm-hmm. Et ça passe par une réflexion sur l'atténuation de l'excuse de minorité. Mm-hmm. On en discutera au sein du gouvernement, on en discutera au sein du Parlement. Mais face à des phénomènes de violence qui touchent des jeunes de plus en plus jeunes et avec des niveaux de violence de plus en plus importants, chacun, je crois, comprend bien, et ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est juste une question de bon sens, qu'il faut qu'on fasse évoluer la législation.
Emmanuel Rivière, vous êtes un spécialiste de l'opinion. Ces responsables politiques, est-ce qu'ils ont raison de prendre les Français à témoin en disant « c'est la priorité des Français, c'est ce qu'ils veulent » ?
Alors, exprimé en ces termes, factuellement, c'est faux. C'est pas la première priorité des Français, c'est le pouvoir d'achat. Derrière, assez rapidement, c'est la question de la protection sociale. Ça fait partie des priorités des Français, mais encore une fois, pas de tous les Français. Il y a des sujets qui sont consensuels. Hier, c'était le chômage, aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Et il y a des sujets qui préoccupent une partie de l'électorat. À gauche, on va beaucoup plus s'occuper de l'environnement, du climat et de la question de la protection sociale. À droite, on va beaucoup plus être préoccupé par ces questions d'insécurité. Ensuite, c'est vrai que le gouvernement et Maud Bréjon surfent sur un moment où il y a une saillance de la préoccupation sur l'insécurité.
Il y a ce baromètre, hein, Fiduciel au Doxa, qu'a publié le quotidien Le Figaro là, avant-hier, qui montre qu'un Français sur deux estime toujours que sa sécurité est mal assurée. Un sondage qui a été réalisé juste après la nomination de Bruno Retailleau.
Oui, parce qu'il y a ce sentiment, et j'assume de dire qu'il y a ce sentiment que la sécurité en France n'est pas assurée. Mais quand on regarde d'autres types d'enquêtes qui sont faites par l'INSEE régulièrement sur ce dont les gens ont été victimes, on voit qu'il n'y a pas d'explosion des gens qui disent « on m'a cambriolé, on m'a agressé, j'ai subi ceci ou j'ai subi cela ». Il y a aussi, et encore une fois, j'assume de le dire, des fluctuations de la part de l'insécurité dans notre état d'esprit, qui sont liés à des actualités. Effectivement, quand l'actualité du meurtre, du viol et du meurtre de la jeune Philippine par quelqu'un qui est sous OQTF, qui a été sorti d'un centre de rétention, évidemment, ça pose tout un tas de questions. Encore une fois, je ne dis pas que des gens ne vivent pas l'insécurité, ils la vivent parfois même au quotidien, en particulier les femmes d'ailleurs, qui sont beaucoup plus contraintes dans leur vie de liberté, mais la part de l'insécurité comme demande à l'égard des pouvoirs publics, elle fluctue. Et d'ailleurs, là on voit une amélioration dans ce même sondage de Doxa du sentiment que l'insécurité est prise en charge. Il prouve bien qu'il y a une part très symbolique. Bruno Retailleau, là, depuis 2 semaines.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Tous les efforts du gouvernement portent aussi ces jours-ci sur le budget de la France pour l'année prochaine. Alors, il y a des efforts à faire sur les recettes comme sur les dépenses. Pour le Parti socialiste, Olivier Faure, c'est aussi haro sur les riches. Écoutez-le.
Les 500 familles les plus riches de France ont, en 7 ans, doublé leur capital. Ils sont passés de 600 milliards à 1200 milliards. Si vous prenez sur 10 ans, c'est 200 milliards passés à 1200 milliards. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rétablir un impôt sur la fortune. Nous, nous chiffrons le gain possible à 15 milliards. On est loin de ce qu'ils ont engrangé. Nous avons là une ressource qui peut atteindre 15 milliards d'euros. Et c'est une façon de dire, vous vous êtes beaucoup enrichi pendant la période, il n'est pas anormal que vous restituiez une partie de ce que vous avez gagné, parce que vous avez des gens qui, eux, ne se sont pas enrichis. Pour l'instant, on a dit 1%, donc ça me paraît pas... On est loin de la révolution, on n'est pas en train de se polier, on est en train de dire simplement, il y a un moment, une équité fiscale qui est nécessaire.
Toujours à gauche, on est sur la même longueur d'onde, et pour Éric Coquerel de la France Insoumise sur France 3, le tandem Macron et Barnier a du souci à se faire.
Monsieur Macron a tenté de mettre sur place un gouvernement qui, soi-disant, a une majorité relative, un peu plus de 200 députés. On voit qu'en réalité, ça n'existe pas, parce que déjà, les députés macronistes disent qu'ils ne voteront pas certains aspects de ce budget. Donc, il n'y a pas de majorité, et normalement, ce budget va être battu. Il est probable, Michel Barnier en a parlé, qu'il utilise le 49-3, mais sauf que contrairement aux deux dernières années, cette fois-ci, je pense que les motions de censure passeront et que le budget tombera, et le gouvernement avec.
Et puis, pour le LR, Jean-François Copé, il faut assumer des choix difficiles dans la période.
Je ne vois qu'une seule vertu à la période que nous vivons, une seule. On met les pieds dans le plat. Voilà. Les Français, eux, qui sont beaucoup plus conscients de tout ça, ont compris que la situation budgétaire était dramatique. Et pourquoi elle était dramatique? Parce que nous sommes drogués à la dépense publique. Alors, ouais, et qu'il va falloir se désintoxiquer. On n'a même pas le choix. Et je note dans les sondages que les Français sont en train d'en avoir vraiment conscience. Donc il ne faut pas louper le coche.
Le budget est-il devenu la préoccupation des Français, puisque vous parliez du pouvoir d'achat, Emmanuel Rivière?
Alors, ce qui est singulier dans la période qu'on vit, c'est que le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des Français. Et donc, derrière tout cela, il y a la question des dépenses d'énergie, de tout ce qui est discuté actuellement sur le prix du gaz, etc. Et en parallèle, la préoccupation pour l'état de la tête et des déficits du pays est en train de monter. C'est quelque chose qu'on avait un peu oublié, un peu mis de côté, notamment pendant la période du Covid, les périodes du quoi qu'il en coûte. Donc là, il y a une tension entre les deux, puisque ce qui se profile à l'horizon, ce que les gens anticipent à travers la conséquence de cette situation très critique des finances publiques, c'est plus d'impôts, plus de taxes, plus de dépenses et peut-être moins d'aide aussi, puisqu'il est aussi question de retarder l'indexation des pensions de retraite ou des dispositifs comme cela. Donc oui, il y a une tension, mais qui n'est pas aussi nettement orientée vers il faut juste renoncer aux dépenses publiques. Les gens disent ça, effectivement, qu'il faudrait plutôt baisser les dépenses publiques. Le problème, c'est que dans ces sondages que Jean-François Copé ou d'autres citent, on ne demande jamais quelles dépenses publiques. Et quand on le demande, les gens disent le train de vie de l'État. Or, il n'y a pas 15 milliards à trouver sur le train de vie de l'État.
Le RN présentera, lui, un contre-budget, jugeant celui du gouvernement pas acceptable. Le Rassemblement national se justifie en déplorant que des lignes rouges très claires ont été franchies, taxes sur l'électricité, la baisse du remboursement des consultations médicales ou encore la hausse des taxes dans le transport aérien. Est-ce qu'il y a une convergence des oppositions qui peut donc laisser penser qu'il y a un sérieux risque de censure, comme le disait tout à l'heure Éric Coquerel?
Donc la période, de ce point de vue-là, est très intéressante et un peu critique. Pour la gauche, c'est pas très compliqué de s'opposer au budget. De toute façon, on pouvait l'anticiper que ce budget allait être un budget qui allait resserrer les dépenses et ne pas imposer suffisamment par rapport à ce que préconisait le programme du Nouveau Front Populaire. Pour le Rassemblement National, c'est plus délicat, parce que je suis rentré dans cette législature en disant « nous, on ne va pas censurer tout de suite, on va laisser une chance, on est responsable, etc. » Sauf que je pense que forcément, un certain nombre de dispositions, et les sondages Le Monde d'ailleurs, qui sont dans le projet de budget, chatouillent beaucoup l'électorat du Rassemblement National. Donc oui, il y a un vrai risque qu'au bout du bout, et le Rassemblement National, en conformité peut-être avec ce que pensent les électeurs, ne vote pas ce budget, voire le censure.
Alors le Premier ministre laisse le soin aux parlementaires de trouver, eux, 5 milliards d'économies supplémentaires. Est-ce qu'il respecte ainsi la représentation nationale en disant « voilà, vous avez votre droit, vous avez le droit à la parole » ou est-ce qu'il manœuvre pour ne pas avoir seul le mauvais rôle?
Alors, de toute façon, je pense qu'il a déjà un peu le mauvais rôle, même s'il a une posture qui est appréciée. Mais il n'a déjà pas tout seul le mauvais rôle, parce que quand on demande aux gens qui est responsable de la situation, ils imputent cette responsabilité au gouvernement sortant, mais aussi à peu près à tous les gouvernements depuis une quarantaine d'années. C'est un point intéressant que de laisser beaucoup plus l'initiative et une marge de manœuvre au Parlement. Le risque, c'est que le Parlement tel qu'il fonctionne et
parce qu'il ne s'y est pas constitué une majorité, ne soit pas vraiment l'endroit où émergent des solutions, en tout cas pas facilement.
Alors ce budget de crise doit répondre à un état des finances grave avec une dette colossale. Or, jusque-là, le gouvernement assurait que tout n'allait pas si mal que cela. D'où la volonté à gauche de demander une commission parlementaire pour faire le point, voire déterminer les responsabilités. Ce qu'en dit Éric Coquerel, qui préside la commission des finances à l'Assemblée nationale.
En 2023, on nous a dit qu'il y aura 4,4% de déficit. Et puis tous les deux mois, ça a changé. On arrive à 6,1% de déficit en 2024. Et le problème derrière ça, c'est que c'est la crédibilité de la France. Jusqu'à maintenant, la France est considérée comme ayant un appareil d'État qui donne des chiffres justes sur lesquels, notamment, tous ceux qui nous prennent de l'argent peuvent tabler. On va essayer de comprendre comment tout ça a dérapé à ce point-là. Alors même, je le rappelle, nos débats sont publics. Donc, il suffit de regarder. Nous avions tous... Quasiment tous les groupes de l'opposition, et moi, pendant notre commission de défense, disent « vos chiffres n'ont aucun rapport avec la réalité, on nous avait rayonné ».
Maintenant, le socialiste Olivier Faure sur cette démarche.
On voit bien qu'ils n'ont même pas compris ce qui s'était passé. Vous avez même, entre le mois de janvier et le mois d'octobre, 100 milliards qui se sont non pas évaporés, mais en fait, on a un déficit qui s'est creusé, et un ministre qui s'est enfui à Lausanne pour éviter de rendre des comptes. Je parle de Bruno Le Maire. Visiblement, de ce qu'on découvre au fur et à mesure, il avait été alerté par les services de Bercy et qui n'a rien fait parce qu'il y avait des élections européennes, parce qu'il y avait peut-être... Après, il y a eu la dissolution. Et le chef de l'État la partage assez largement avec lui. Ça, c'est exact. Je ne veux pas tout le mettre sur le dos.
Le mécontentement à l'égard du pouvoir, c'est aussi le fait que le budget de l'Élysée pourrait passer à 12,5 millions d'euros, soit 3 millions de plus. Celui de l'Assemblée nationale devrait progresser de 10 millions pour être porté à 618 millions d'euros. Et la porte-parole du gouvernement avance cette justification.
Qu'il y ait des augmentations dues à l'inflation, comme c'est le cas pour l'ensemble ou pour une grande majorité des budgets de l'État, ça peut aussi s'expliquer. Sans balayer les questionnements que ça peut susciter, ne rentrons pas non plus dans un débat qui amènerait à une petite musique anti-politique et anti-élu. Ouais. Il y aura un débat, il y aura des discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a une part de ces augmentations, encore une fois, du fait de l'inflation, qui, je pense, peuvent s'expliquer. Et pour le reste, je le redis, malgré tout, parce que même si des efforts sont demandés, et notamment à ceux qui le peuvent le plus, l'État et les ministères, le budget de l'État, donnera l'exemple.
Pas très à l'aise, hein, Maude Bréjon, Emmanuel Rivière. Les Français qui doivent se serrer la ceinture et les gens d'en haut qui s'octroieraient des augmentations. C'est dommageable pour l'image de la démocratie ?
Alors, tout à fait dommageable. Si Maude Bréjon, on l'a entendu un peu plus tôt, semble se soucier de ce que pensent les Français sur l'insécurité, l'immigration et chercher leur approbation, je pense qu'effectivement, ça risque d'être très préjudiciable si on laisse s'installer l'idée qu'il faut serrer la ceinture, que dans l'éducation nationale, on diminue le nombre de postes, mais que l'Élysée augmente son budget. Mais au-delà de ça, finalement, il y a une question de fond, parce que ce qui pose question, là, c'est le regard aussi des Français sur les politiques, non pas à cause de ce côté un peu... sans doute épisodique de est-ce que le budget de l'Élysée va augmenter, plutôt l'absence de maîtrise, et a fortiori de la part de ceux dont on pensait qu'ils maîtrisaient le mieux, qu'ils étaient ceux qui étaient les plus capables de gérer correctement le budget des comptes et les comptes de la nation. Et c'est ça qui est en jeu d'ailleurs, je pense, depuis la dissolution et avec tout le spectacle qui a été montré pendant l'été. C'est que les Français soient amenés à se dire de plus en plus, mais finalement, ceux qui nous gouvernent sont-ils à ce point plus compétents que nous pour occuper le pouvoir, pour nous donner le son et puis pour nous dire ce qu'on doit penser. Je pense qu'il y a une étape supplémentaire de la déqualification et de la manière de dire aux politiques « descendez un peu de votre piédestal si vous n'êtes pas plus fort que ça ».
Merci pour ces analyses et commentaires, Emmanuel Rivière. Je rappelle que vous êtes politologue, consultant en stratégie d'opinion et spécialiste des sondages, puisque vous avez longtemps travaillé pour l'Institut Kantar. Cette émission, ce dimanche politique, à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI et sur l'appli. Dimanche politique réalisé ce soir par Fabrice Viollet.